C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Se déguiser en buisson pour guetter les chevreuils ou passer des heures devant un aquarium pour traquer le regard du silure. C'est le quotidien des élèves passionnés de l'IFCAM, l'Institut francophone de formation au cinéma animalier de Ménigout. Ménigout, c'est le village voisin où se tient depuis plus de 30 ans le Festival international du film ornithologique. Cette école publique et quasi gratuite enseigne aux élèves en 2 ans les techniques de cinéma et d'écriture, l'approche de la faune, une déontologie rigoureuse et comment financer et vendre son film. C'est un reportage de Cerise Maréchaux.
Voilà, c'est un gros sac.
Et alors ouais, dans le sac du cinéaste animalier, il y a plein de belles choses. Trépied, donc obligatoire pour l'affût. Toujours avoir un petit peu à boire aussi, parce que c'est très long des fois les affûts. Ça, c'est une guilie. C'est des tenues un petit peu militaires en fait.
De camouflage en fait.
Voilà, c'est ça exactement. Et du coup, là je me déguise en buisson grosso modo.
C'est du lainage en fait
c'est... Oui, c'est des fils qui sont cousus sur une petite veste en fait. Et avec des couleurs marron, des couleurs sombres. Et il y a le masque qui va avec. Les animaux voient beaucoup les parties claires de notre peau. Donc ils sont très sensibles à notre visage et à nos mains. Je pense que c'est qu'un petit orage, ça se gâte un petit peu. Mais on va prier.
Comment tu t'appelles ?
Thibaut. Je viens des Alpes du Sud. C'est pas du tout le même milieu, je suis pas du tout habitué à cette région, mais... La Gâtine poitevine. Gâtine, ça signifie que la terre est un petit peu humide, on va dire, et là, c'est bien prouvé aujourd'hui.
Il y a beaucoup de traces de pas, là.
Oui, ça fait 4 jours que je viens filmer ici. C'est un endroit qui est très connu des étudiants de l'IFCAM. Parce que régulièrement, il y en a qui viennent filmer justement le chevreuil. Parce que c'est un des rares endroits où ils sont pas chassés. Et du coup, c'est agréable de pouvoir filmer des animaux qui se sentent plus en sécurité que quand on les suit et qu'on les fait courir. Donc là, on va passer par-dessus la haie. Vas-y.
Merci. L'IFCAM, c'est le nom de l'école.
L'Institut francophone de formation au cinéma animalier de Ménigout.
Et là, on est sur des terrains qui appartiennent à l'école ?
Non, on a un terrain à l'école de 70 hectares.
70 hectares ?
C'est ça, exactement. On a une petite forêt, on a une zone humide, des petits marécages, tout ce qu'il faut pour filmer. Après, pour certains animaux, c'est mieux de sortir de ce cadre et d'aller dans des endroits où il y a quand même une forêt un peu plus dense. On va prendre tout droit, là. On va commencer à ouvrir l'œil, mais je vois rien qui bouge pour l'instant. L'intérêt du chevreuil pour mon sujet, c'est que donc le chevreuil fait son grand retour en France, hein, pour resituer le contexte. Et du coup, il y a une espèce qui s'appelle le chevreuil de plaine, qui vit uniquement sur les terres agricoles. Du coup, c'est évidemment important pour mon sujet d'en parler, de voir comment ce chevreuil s'adapte à vivre hors des milieux forestiers.
Et tu travailles sur quoi, là ?
Justement sur la réappropriation des terres agricoles par les animaux sauvages. Ces animaux qui, parfois, causent du tort aux agriculteurs. D'en parler et de voir si on peut trouver une solution pour concilier à la fois nature et agriculture. On va aller se poster dans la haie, là, au fond.
Ça fait combien de temps que tu étudies à l'IFCAM ?
Ah, c'est ma première année. C'est 2 ans, le master. Après, qui peut être complété par une troisième année, où généralement, c'est... Un film collectif qui est réalisé par les étudiants de l'IFCAM, donc ils sont sortis.
La promo se réunit pour faire un film tous ensemble ?
À l'étranger, généralement. Et donc pendant les 2 ans, on cherche des financements pour faire ce film.
Vous avez déjà des idées pour votre projet de troisième année ?
Oui, on réfléchit à plusieurs sujets, et après on votera
T'aimerais faire quelque chose en particulier, toi ?
Les écureuils volants, en Estonie, qui est menacé de disparaître. À cause de la déforestation, principalement. Du coup, c'est une bonne manière d'aborder avec un animal « mignon », entre guillemets, la problématique de la déforestation qui touche tout le monde, partout. Et on a un sujet sur la confrontation entre le renard polaire et le renard roux. Avec le recul de la neige, ils se retrouvent sur le même territoire, en fait. Et du coup, le renard roux est plus gros, et du coup, il a le dessus sur le renard polaire. Donc c'est un sujet super intéressant, mais qui va demander beaucoup d'investissement de notre part, parce que c'est très loin, il fait très froid, et voilà, c'est dans le Yukon, au Canada, très très loin. On va s'installer ?
Ouais.
Fais gaffe, les branches piquent énormément. Ça tient pas. Et maintenant, on attend.
Dominique Brouard, vous êtes le directeur de l'Institut francophone de formation au cinéma animalier Dominique Goutte. L'IFCAM, c'est la seule formation publique pour apprendre le cinéma animalier en Europe. Comment est née cette école ?
Dans le prolongement du festival Dominique Goutte, qui est un festival de films animaliers qui existe ici depuis 1985, nous, ici, à Ménigout, on a connu au festival des sélections en 16 mm. Donc c'était lourd, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis est arrivée là-dessus la vidéo. Alors c'était pas très bon au départ, mais ça s'est assez rapidement amélioré. Et puis est arrivée surtout la multiplication de chaînes de télévision qui diffusent essentiellement du documentaire, voire beaucoup de documentaires animaliers. Là, il y a une niche qui s'est ouverte, mais c'était souvent mal filmé parce que le cinéma animalier, ça obéit à un certain nombre de techniques de captation. Ça obéit également à une connaissance du milieu. Je me suis dit, non d'une pipe, il faut absolument qu'on mette en place une formation, parce que ce sont des films qui s'exportent très très bien à l'étranger, et puis parce que c'était à l'époque où allait sortir Le Peuple Migrateur, Jacques Perrin, je voyais l'enthousiasme, l'engouement autour de ce projet, je me suis dit, voilà, il y a une place en France, en Europe, pour une école dédiée à ce domaine-là. Ensuite, il y a quelque chose qui a évolué de manière conséquente, c'est la technique, hein. Ça devient accessible. Le problème de l'accessibilité d'aujourd'hui, c'est que ça peut être dangereux. Dès que vous approchez d'espèces fragiles qui sont menacées, eh bien, une espèce par exemple comme la fauvette à tête noire qui est hypersensible, vous pouvez être sûr que si vous en approchez trop, ben, vous détruisez la nichée. Vous pouvez accentuer le danger de disparition auxquelles elles sont confrontées du seul fait du cinéma animalier. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc ça, c'était aussi une dimension que j'ai souhaité intégrer à l'IFCAM, c'est-à-dire on ne fait pas n'importe quoi dans la nature.
Donc là, vous êtes plusieurs étudiants de l'IFCAM en colocation dans cette maison.
On est trois, ouais.
Là, c'est un aquarium.
Voilà, c'est pour mon film, donc un aquarium avec des... où j'essaie de recréer un semblant de fond de rivière, donc avec du sable, des graviers, des rochers, des bois morts, des plantes, etc., etc., et des poissons. Donc, cette année, moi, je travaille sur le silure, donc, qui est le plus grand poisson d'eau douce d'Europe et le plus gros au monde. Plus de 2 mètres de long, donc dans l'aquarium, c'est un peu compliqué. Et bah, sauf que dans sa rivière, il n'est pas tout seul, donc je vais montrer un petit peu la vie qu'il y a autour aussi, et c'est à ça que va me servir cet aquarium.
Pour aller chercher des détails de l'anatomie, les gros plans sur les yeux, les reflets sur les écailles, des choses comme ça.
Ah, on voit bien, là, sur l'écran.
Ouais, bah, après, toute la difficulté, c'est d'arriver à avoir le point, parce que la zone sur laquelle l'image est nette est très peu profonde, donc il suffit que le poisson s'approche ou s'éloigne un tout petit peu et j'ai plus le point, quoi.
Ton film sur le silure, qu'est-ce que tu voudrais raconter ?
Bah, le silure, c'est un animal sur lequel on entend beaucoup de choses, beaucoup de bêtises notamment. C'est lié au fait qu'il est très grand, qu'il est arrivé très vite. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans de ça, il n'y en avait pas. Maintenant, il est partout sur le territoire.
Il est arrivé d'où ?
Originellement, il vient d'Europe de l'Est. On l'a introduit, en fait, pour la pisciculture continentale. Et puis, comme à chaque fois qu'on introduit une espèce pour l'élever, bah, il s'échappe. Donc ouais, c'est un poisson qui est énorme, plus de 2 mètres, donc on a eu droit à toutes les rumeurs du type il mange les chiens, il attaque les enfants, il attaque les gens, c'est archi faux.
Comme le loup.
Oui, voilà, c'est ça. Dans les années 80-90, on a commencé à entendre beaucoup de choses comme ça, les pêcheurs qui se plaignaient que soi-disant le silure bouffait tout dans les rivières, ce qui est archi faux aussi. Donc j'aimerais bien aller un peu contre toutes ces idées-là, parce que c'est complètement faux, et en termes de biodiversité, c'est plutôt un plus, quoi. Il a remplacé certains prédateurs, notamment le brochet, qui ont été énormément pêchés et qui n'étaient plus en nombre assez grand pour réguler les populations de poissons proies. Donc il y a eu une époque où les pêcheurs racontaient qu'ils prenaient beaucoup de poissons malades, mal formés, etc., parce que manque de prédateurs. Et bah, du coup, ça a un peu rééquilibré tout ça. Donc c'est toutes ces choses-là que je voudrais un peu mettre en avant pour réhabiliter un peu l'animal, qui en plus n'a pas une tête spécialement mignonne, il faut bien l'admettre. Je viens du milieu scientifique et ce dont je me suis rendu compte là-bas, c'est l'écart absolument monstrueux qu'il y a entre ce qui se sait dans les labos et ce qui est connu du grand public. Il y a un gros problème de transmission des connaissances. Les chercheurs sont les premiers à l'admettre d'ailleurs, mais ils sont aussi les premiers à admettre qu'ils ne savent pas faire. Et du coup, bah voilà, j'aimerais bien sortir un peu les infos des labos, surtout sur des questions comme ça, où ça peut quand même avoir des grosses implications. Mais comme je l'ai dit, on a failli le passer en nuisible. Classement nuisible, ça veut dire que sur n'importe quel endroit, si on décide de l'éradiquer, on a le droit. Bah, autant essayer que le plus grand nombre ait les bonnes infos, quoi. Puis, oui, le chat, c'était gentil, mais là, ça va être compliqué.
Il est intéressé par les poissons, évidemment. C'est ça. C'est beau, un poisson de près, comme ça.
Bah oui, c'est bien pour ça qu'on va sous l'eau. Les documentaires qui se passent sous l'eau ou je sais pas, c'est sous l'eau, donc les gens ont tout de suite des envies de poésie ou de sensibilité, je sais pas quoi. J'ai souvent l'impression que c'est dans ce type de documentaire qu'on va avoir beaucoup plus de références aux sensations de la personne qui filme ou qui réalise. C'est souvent assez plaisant cette idée de pas cacher qu'il y a quelqu'un derrière la caméra.
Ce dont souffrait le cinéma animalier, de mon point de vue, hein, c'était vraiment d'une question d'écriture. Certes, les belles images étaient présentes, mais l'histoire ne l'était pas toujours. Et même si on veut travailler sur la dimension scientifique d'un film, ça ne dispense pas d'un travail d'auteur. Personne n'a le même point de vue. L'auteur, c'est celui qui a un point de vue, le sien, sur un phénomène qui a été vu 1000 fois, mais jamais interprété de sa manière à lui. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly. To the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly. Into the light of a dark black night.
Bonjour. Alors, je suis Yves-Marie Sirois, je suis responsable audiovisuel de l'IFCAM. Là, on est sur le site de l'IFCAM.
En fait, c'est un ancien corps de ferme.
C'est un ancien corps de ferme du 17e, je crois, mais je ne veux pas dire de bêtises, qui a été remis au goût du jour, un peu en essayant de le garder dans son jus, mais avec des procédés de haute qualité environnementale. Il y a un bâtiment où il y a le matériel qui est mon bureau aussi. Après, ici, on a le bâtiment administratif avec les salles de cours et la bibliothèque. Et après, on a la grande grange qui nous sert de salle de cinéma quand on regarde les films des étudiants. Et après, on a les studios de montage-mixage, qui sont ce petit corps de ferme là.
Là, c'est le studio de montage ?
Studio de montage, oui. Ariane et Félix, en plein boulot de mixage. Là, à l'heure actuelle, ils sont sur du mixage d'un petit film qu'ils sont en train de réaliser. Vous le faites pour quoi, le film ?
Moi, mon projet personnel cette année, c'est un film sur l'Avone, donc qui est la rivière qui passe en dessous. Et je suis trois personnages, donc j'ai un Martin Pêcheur, une Épinoche et une famille de Ragondins.
Comment ça se passe ?
Pas terrible pour le moment, vu la météo. J'ai eu des crues assez importantes qui ont pas mal fait bouger les choses. Les Martin Pêcheurs sont partis, donc... Voilà.
Comment t'envisages la suite pour en faire ton métier ?
Moi, je conçois plus ça comme les réalisateurs qui font des, entre guillemets, des petits films, des films à moyen ou à petit budget pour des choses comme la Salamandre.
C'est quoi la Salamandre ?
C'est un magazine suisse sur la nature et les animaux qui produit tous les ans, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 documentaires animaliers. Qui sont des films vraiment intéressants, sur lesquels on sent que le réalisateur a eu complètement la liberté de faire ce qu'il voulait, et j'aimerais bien. Mais après, ça n'empêche pas non plus, j'adore aussi ce que font des grosses boîtes de prod, même étrangères, comme par exemple la BBC, qui même s'ils font des choses qui sont hyper formatées, télé, grand public, il faut qu'on puisse allumer la télé à n'importe quel moment du film, et qu'on ne soit pas perdu quand même dans ce qui se passe, tout ça. En attendant, ils font quand même des images qui sont complètement hallucinantes, et... Si j'ai des occasions, des opportunités de travailler pour ces structures-là, ça me plairait aussi vachement.
Ça veut dire quoi être formaté pour un film animalier ?
Par exemple, il peut y avoir des images ou des bouts de séquences qui sont attendus et que du coup la production va vouloir avoir, même si ce n'est pas faisable avec des animaux sauvages ou qu'on peut pas, ou ce n'est pas des choses qu'on peut voir dans la nature. S'ils en ont besoin pour leur histoire, ils ne feront pas l'impasse dessus et ils prendront, un renard apprivoisé et un lynx apprivoisé pour avoir une course-poursuite dans la neige et avoir l'image qu'il leur faut.
Ça arrive.
En fait, dans les films, ça casse un peu le mythe, mais dans les films, par exemple, dans les très grosses productions, comme par exemple, le dernier film de Jacques Perrin.
Comment il s'appelle ?
Les Saisons. La part d'animaux sauvages dans le film est... presque anecdotique en fait par rapport au reste. C'est une énorme partie d'animaux qu'on appelle imprégnés, donc qui gardent des comportements sauvages mais qui ont été élevés à côté des hommes et qui donc ont absolument plus peur d'eux et qu'on peut approcher à quelques mètres et mettre tout un gros dispositif de tournage avec une équipe de tournage, des grosses caméras, des gros micros, des choses comme ça, sans qu'ils s'inquiètent. Donc c'est plus vraiment le cinéma animalier comme on peut peut-être plus le concevoir ici, où l'image animalière, elle se mérite, on la cherche, on fait des affûts, on se cache dans la nature, on attend que ça arrive et on espère pouvoir la capter de manière à la rendre fidèlement. Mais quand on fait du film animalier, il y a une sorte de pacte tacite où en fait le spectateur s'attend à ce qu'on lui montre, ça soit vrai.
L'aube, la renaissance, la promesse d'un nouveau jour. Je regarde le creux des vieux chênes gris, enveloppé de ce brouillard étouffant. Seul, je ne le suis pas.
Que penser des films animaliers assez récents, des grosses productions qui vont jusqu'aux salles de cinéma notamment, et qui réalisent des prouesses techniques ? Mais qui ont aussi tendance à projeter des sensations, des émotions, des comportements ou des valeurs humaines sur les animaux, en leur donnant aussi des prénoms, qui tendent à faire de l'anthropomorphisation.
C'est un point de vue sur lequel, en ce qui me concerne, j'ai évolué. C'est-à-dire que j'étais très hostile à l'approche anthropomorphique. Néanmoins, je pense à un film comme La Marche de l'Empereur. Et je me suis dit, en regardant ce film-là, que j'ai trouvé tout à fait remarquable, que c'est quand même difficile de ne pas se reconnaître un peu dans la démarche du Manchot, la dimension maternelle, dans la dimension des sociétés regroupées, solidaires, finalement, qui nous donne même un certain nombre de leçons. Bon, je ne condamne pas l'anthropomorphisme quand il ne prend pas les gens pour des imbéciles, quoi. C'est juste là la limite pour moi. Mais si ça peut donner un peu plus de poésie au récit, si ça peut amener un peu plus de personnes à s'intéresser au sujet, pourquoi pas ?
Il était une fois un jardin, une terre fertile et généreuse où la vie allait de soi. C'était il y a bien longtemps, avant que l'hiver ne vienne. Depuis, les temps ont passé. La terre a changé 100 fois de visage. Nous, nous sommes toujours là, debout comme des sentinelles. Voici notre histoire.
Regarde, les gens regardent au fond, tu les vois?
Ouais. Ah, super. Il y en a trois. Il y en a un qui a levé la tête vers nous.
Il va boire. Laisse-toi.
Pourquoi c'est important le documentaire animalier ?
Bah, pour moi, c'est important aussi dans le sens où on va essayer de filmer souvent les animaux qui vont intéresser aussi les réalisateurs animaliers. C'est des espèces qu'on n'aura peut-être plus la chance de filmer dans quelques années ou quelques décennies. Donc c'est aussi une trace, même scientifique, de ce qui a pu avoir un instant T à certains endroits. Pour ça, le documentaire animalier est aussi important parce qu'on témoigne de ce qui a pu avoir et on informe sur peut-être ce qui va se passer. Peut-être montrer les choses qui sont et qui ne seront plus, ça interroge le spectateur sur ce que nous aussi, on sera encore là à moyen ou à long terme.
Ils nous ont vus.
Ils ont vu quelque chose bouger, mais ils n'ont pas encore identifié ce que c'était.
La lumière est belle, là.
Ouais, il y a un tronc couché en plus devant, c'est un bon point d'accroche de l'œil.
Tu vois, là, le dernier qui quitte l'étang, c'est une femelle.
Filmer là.
J'ai pas le trépied.
Ah, d'accord.
À main levée avec un tel objectif, c'est impossible.
D'accord. Ça arrive jamais des documentaires animaliers un peu caméra à l'épaule.
Et c'est vrai qu'en documentaire animalier, on cherche quand même beaucoup la stabilité. Ouais. C'est l'animal dans le cadre qui crée le mouvement. Là, il fuit. Et voilà, c'est fini.
En fait, on est tout seul, on est tout seul dans un champ et on a l'animal. Et en fait, si on rate, c'est que de notre faute. Et je trouve que ça responsabilise pas mal. Et on peut pas se dire que c'est parce qu'on est arrivé en retard à cause du métro, de la grève, de la RATP ou je sais pas quoi. Enfin, on laisse juste les idées vagabonder et c'est du temps que je prenais pas pareil avant. C'est un peu nié, mais c'est assez contemplatif et je pense qu'on écoute plus les choses et... Enfin, c'est pas que introspectif, on n'écoute pas que soi, on écoute aussi les petits passereaux. Enfin, et quand on voit rien et qu'on attend 4 heures et qu'on a les pieds glacés, on s'émerveille du moindre petit oiseau qui vient à moins d'un mètre. Enfin, c'est... Alors qu'on fait même pas attention sinon. Mais... Donc ça met dans un état assez méditatif, je trouve, c'est vrai.
Quand j'ai vu que cette école existait, je me suis dit, je rentrerai. J'ai fait des études qui n'ont aucun rapport, j'ai fait 3 ans de sciences du langage. Enfin, j'ai fait bac littéraire, donc ça aide pas.
Ça veut bien dire que l'IFCAM s'est ouvert à tous?
Ouais, moi j'ai postulé plusieurs fois. Là, c'était ma 3e.
D'une certaine manière, ils ont dû se dire, ah ben, elle est persévérante, elle est patiente, elle s'accroche. T'as fait preuve de qualité dont t'as besoin un réalisateur de films animaliers.
Ouais, ça a dû jouer, ouais, c'est sûr. Cette école, c'est vraiment une chance. Quand on cherche sur Internet des noms de réalisateurs animaliers en France, Ben, la plupart, on s'aperçoit que c'est marqué IFCAM, quoi. Là, ça fait 12 ans qu'elle existe. Elle a quand même un beau taux de réussite. Puis surtout, il n'y en a pas beaucoup, des écoles comme ça, quoi.
Et elle est raisonnable, c'est une école publique.
Ah oui, alors ça, au niveau des tarifs, c'est incroyable. En gros, il y en a pour moins de 1000 euros l'année. Pour une école comme ça, c'est juste incroyablement pas cher. Faut compter qu'il y a le matos, il y a faire venir les intervenants, parce qu'on n'a pas vraiment de profs, on n'a que des intervenants, enfin, donc des gens du métier, en fait. C'est des professionnels qui viennent nous voir. Pour payer tout ce beau monde, ouais, c'est incroyable qu'elle soit aussi peu chère. Ton rêve, avec cette école, il est possible. On peut faire cette école sans être riche. Et on va peut-être commencer à prendre le retour, parce qu'on va se prendre une rincée. Ça, c'est une journée normale. Rentrée dégueulasse et trempée. C'est là qu'on a hâte de partir faire des documentaires dans la savane.
Vous trouverez les coordonnées de l'école sur la page de l'émission, tapez C'est pas du vent dans les moteurs de recherche. Merci à Cerise Maréchaux et aux élèves de l'IFCAM pour ce reportage réalisé par François Porcheron. Demain, nous vous parlerons d'une démarche qui prend de l'ampleur, le principe des gouvernements ouverts ou comment recréer de la confiance entre l'exécutif et la société civile, notamment sur les enjeux climatiques. Il y a du boulot. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à demain, même planète, même heure.
Appelez-nous